Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, l'impuissance des grandes puissances quand il s'agit de faire taire les armes en Libye confère. L'appel au cessez-le-feu lancé hier par le Conseil de sécurité des Nations Unies, analyse de Nabila Hamel. L'impuissance de l'Union européenne à harmoniser des mesures de sauvetage des réfugiés en pleine mer, cependant qu'en Allemagne a été organisée cet après-midi une campagne de solidarité à l'égard de Carola Rackete, la capitaine du navire humanitaire Sea-Watch. Invité de ce journal, Joël Dallègre, spécialiste de la Grèce moderne à la veille des élections législatives. Enfin, les idées à la rescousse de la gauche française archipélisée selon l'expression du politologue de Jérôme Fourquet. Diagnostic dans ce journal de l'ancien député socialiste et néanmoins frondeur, Christian Paul. Entre les affrontements interlibyens, les interférences des puissances régionales qui ont choisi leur camp dans ce conflit, la situation reste très difficile pour les Libyens, mais aussi pour les migrants qui se sont installés dans le pays en attendant mieux. Et cette crise aux portes de l'Europe ne semble pas faire bouger plus que cela les grandes puissances. Bonsoir Nabila Hamel.
Bonsoir.
Nabila, encore une fois, hier soir, le Conseil de sécurité s'est réuni sur la question. Il a appelé un cessez-le-feu urgent tout en condamnant le raid aérien du 2 juillet contre un centre de migrants, mais sans Nabila, sans en cerner les responsabilités.
Oui, comme pour les autres attaques ou affrontements qui secouent la capitale libyenne depuis 3 mois, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont jugé nécessaire que toutes les parties procèdent d'urgence à une désescalade et s'engagent dans un cessez-le-feu. Pour le reste, le seul fait nouveau est une allusion aux interférences étrangères. L'ONU demande aux États membres, de manière générique, il est vrai, aucun n'est cité, de ne pas intervenir dans ce conflit et de ne pas prendre de mesures qui l'aggravent. De manière implicite, c'est la violation de l'embargo sur les armes qui est évoquée ici. Ces derniers jours, on le sait, le maréchal Haftar, confronté à une forte résistance dans son offensive sur Tripoli, accuse la Turquie d'aider militairement le gouvernement de son rival Sarraj. L'instance exécutive de Tripoli, reconnue internationalement et soutenue par la Turquie et aussi par le Qatar, l'homme fort de l'Est de la Libye, bénéficie lui du soutien de l'Égypte, des Émirats arabes unis et d'un appui au moins politique des États-Unis et de la Russie. En tout cas, cette guerre aérienne et au sol menée depuis le 4 avril, début de l'offensive sur Tripoli du maréchal Haftar, a considérablement affecté la situation humanitaire du pays. Selon les chiffres que vient de publier l'ONU, 1000 personnes, dont des dizaines de migrants, ont été tuées. Les combats ont également fait 5000 blessés et poussé plus de 100 000 personnes à la fuite. Les associations humanitaires alertent également sur le sort de milliers de migrants et réfugiés en danger dans des centres de détention situés près des zones de combat. Et vous parliez du raid aérien mené au début de la semaine sur l'un d'entre eux. Et bien, cette attaque attribuée par le gouvernement Sarraj aux forces du maréchal Haftar a fait 53 morts.
Merci à vous, Nabila Hamel. Eh bien, ils étaient au large de la Libye, justement, il y a 2 jours. 65 exilés qui avaient pris la mer sur des embarcations de fortune ont été secourus par l'ONG allemande CI. Son navire, la Lan Kurdi, s'apprête d'ailleurs à défier Rome. Voilà qui rappelle la trajectoire d'un autre navire humanitaire, le Sea-Watch, avec à sa barre Carola Rackete, qui avait sauvé des eaux 53 miraculés le 12 juin dernier, avec les suites que l'on connaît, l'accostage au port de Lampedusa, puis l'arrestation de la capitaine devenue le symbole de la résistance à l'impuissance de l'Union européenne face aux attaques frontales, entre autres, du ministre italien de l'Intérieur, leader de la Ligue, formation d'extrême droite, Matteo Salvini. Carola Rackete a reçu le soutien de dizaines de milliers de manifestants allemands cet après-midi. C'est un reportage à Berlin de Pascal Thibault.
Nous en avons marre de votre blabla sur la solidarité. Traduisez enfin vos paroles en actes et accueillez toutes les personnes sauvées en Méditerranée.
Les manifestants ne veulent pas se contenter des négociations à répétition pour la prise en charge par quelques États européens de réfugiés sauvés par des ONG en Méditerranée. Le gouvernement allemand en prend aussi pour son grade, même si Berlin a accueilli 228 personnes concernées depuis le début de l'année, soit plus que ses voisins. L'organisation Seebrücke, ou pont maritime, a été créée il y a un an suite à l'odyssée du navire Lifeline qui cherchait en vain un port où débarquer 234 migrants sauvés en mer. Ce samedi, 90 manifestations avaient lieu, comme à Berlin, dans toute l'Allemagne, pour dénoncer la criminalisation du sauvetage en mer. Julian Wabnitz de l'association Seebrücke sur Carola Rackete.
Elle a vraiment prouvé qu'elle est là pour respecter les droits de l'homme. et pour mettre fin à la peine de ces personnes sur ce bateau. Pour nous, c'est une ruine. Oui.
Les trois quarts des Allemands soutiennent le sauvetage en mer des migrants par les ONG. Carola Racchetta est devenue en quelques jours une nouvelle Jeanne d'Arc.
Les phases de négociation entre autorités afghanes et représentants talibans riment souvent avec recrudescence de violence. Pour parler en cours à Doha, au Qatar, les plus productifs à ce jour, selon une source américaine. Eh bien, hier, 14 personnes tuées sur un marché du nord du pays après des tirs de mortier attribués par les troupes gouvernementales aux forces talibanes. Et puis, les talibans ne sont pas les seuls à affronter l'armée régulière. L'organisation État islamique vient de revendiquer l'attaque toujours hier, mais cette fois à Razni, d'une mosquée chiite. Il est 18h et presque 6 minutes. Vous écoutez le journal de France Culture. Les élections législatives en Grèce pourraient renvoyer dès demain Alexis Tsipras à ses chères études. Un scrutin, un de plus, qui s'annonce très mal pour Syriza et son leader. Pour comprendre ce qui a précipité l'actuel Premier ministre dans cette pente herbeuse, nous sommes en ligne avec Joëlle Dallègre. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de la Grèce moderne. Madame, Syriza va de défaite en défaite. À quand, selon vous, remonte l'irréversible, si je puis dire, dégringolade?
Je crois que la cassure, la fin du charme de Syriza s'est produite très tôt, en fait, en juillet 2015, quand il a fait un référendum sur les mesures proposées par l'Europe. Plus de 60% des gens ont voté non. Et là-dessus, finalement, eh bien, il a appliqué les mesures et même des mesures plus difficiles. Et à partir de là, je veux dire, tout ce que les gens avaient pu croire, tout ce qu'ils avaient espéré de lui a été cassé. Il a pris des tas de mesures pour essayer, si je puis dire quand même, d'alléger la charge que supportaient les plus pauvres. Mais le charme était fini.
Mais pourtant, ces mesures dont vous parlez, Joëlle Dallègre, ont avancé. Enfin, ce sont des mesures aux avancées non négligeables, pour le dire autrement.
Ce sont des avancées. C'est vrai que l'économie du pays va un petit peu moins mal, même si le poids de la dette est toujours aussi fort. Qu'il y a eu des mesures qui ont augmenté légèrement le salaire minimum, qui ont augmenté légèrement les retraites, mais tout ça, de toute façon, n'a pas rattrapé ce qui avait été perdu avant. Mais je crois que le charme est tombé.
Alors qui, justement?
Et puis je dis l'espoir, surtout, est tombé.
Alors l'espoir est tombé, mais l'espoir peut changer de camp. Qui pour succéder à Alexis Tsipras? On parle beaucoup du conservateur et héritier d'une dynastie politique, Kyriakos Mitsotakis. Vous partagez cette approche?
Je ne peux pas faire autrement. Je veux dire qu'effectivement, c'est le seul parti pour lequel les gens puissent voter s'ils veulent vraiment changer. En dehors de ça, ils n'ont le choix qu'entre de tout petits partis qui n'auront pas d'élus, ou à peu près, ou un parti qui ramasse un peu au centre tous les anciens socialistes en déroute des années précédentes. Donc, il n'y a pas tellement de choix possibles, en fait.
Mais est-ce que ce conservateur et néanmoins héritier d'une dynastie politique peut offrir un horizon à une Grèce à laquelle on a dit, vous en avez jusqu'en, sauf erreur de ma part, 2060?
Oui, 2060, c'est bien pour ça que je vous dis que l'espoir manque.
Oui, mais l'espoir, pourquoi est-il incarné par un parti conservateur alors qu'il a été perdu par Syriza?
C'est un espoir extrêmement faible, mais lui se présente, n'est-ce pas, comme un homme qui, contrairement à son adversaire, s'y connaît en finance puisqu'il a travaillé dans la banque. Et en plus, il fait savoir que finalement les dirigeants européens et les financiers européens préféreront de très loin un financier conservateur à un ancien trotskiste.
Joëlle Dallègre, et les armateurs, et j'ai envie de dire de manière un peu sèche comme ça, et l'Église, Syriza et son leader, Alexis Tsipras, ont-ils justement tenté d'imposer des mesures et de venir à bout, si je puis dire, de ces espèces de forteresses? Prenons pour commencer peut-être celle des armateurs.
Et il n'a pas touché aux armateurs et son successeur ne touchera pas aux armateurs. Ils représentent une telle force économique et ils peuvent brandir une telle menace de « si vous nous touchez, nous déménageons » que personne ne touchera aux armateurs.
D'un mot finissant, et l'Église, Joëlle Dallègre?
L'Église, Tsipras y a touché un petit peu, mais pas beaucoup. Un petit peu en prenant quelques mesures qui éloignent un peu l'influence de l'Église sur l'État. Mais là aussi, dirais même c'est la force mentale de l'Église. Là, il s'agit même pas de ses finances. Il s'agit du fait que c'est un lien vraiment profond et viscéral chez les Grecs et que pour une grande partie de l'opinion, s'attaquer à l'Église, c'est pas quelque chose qui fait vraiment plaisir.
Bien, ben, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Joël Dallègre, spécialiste de la Grèce moderne, merci de vos précisions et de vos éclaircissements. Il n'y a pas qu'en Grèce que les gauches sont en panne. En France, après le Big Bang de la gauche lancé par les députées insoumises Clémentine Autain et communiste Elsa Fossillon, deux initiatives à ce chapitre à relever aujourd'hui, celle du sénateur écologiste Ronan Dantec qui réunit plusieurs élus de toutes les sensibilités de gauche dans le cadre de son appel 3W ensemble sur les territoires.fr et puis dans la Nièvre, à la Charité-sur-Loire, celle de l'ancien député socialiste Christian Paul qui organise lui le festival des idées. Des idées, selon lui, pour réarmer des corps politiques fatigués, abîmés.
Moi, je suis persuadé qu'aucun des partis politiques actuels ne peut être le navire amiral d'une reconquête ou d'une alternance. Et il faudra refaire l'apprentissage de nouvelles coalitions. Il faut d'abord commencer par le débat des idées, parce que c'est avec la société tout entière que le projet peut se former. Et pour ma part, j'ai plutôt envie de consacrer du temps et de l'énergie à ce débat des idées, avec la conviction que c'est par là que l'on peut imaginer que le moment venu, une force nouvelle puisse permettre de passer de ces idées alternatives à une alternance politique. Donc je me situe plutôt au-dessus de la mêlée en quelque sorte, avec la conviction qu'il faut aider tous ces partis, ces mouvements citoyens à opérer une mutation radicale. Il faut, quand on est écologiste, qu'on apprenne aussi à défendre la République sociale. Et quand on est de gauche, il est impératif qu'on soit aussi écologique. Voilà. Tout ça va demander le temps d'une transition. Elle ne peut pas être trop longue, mais enfin, nous sommes en 2019, à 3 ans de l'élection présidentielle. C'est le temps des débats, c'est le temps de l'invention politique, c'est le temps, je l'espère, d'un échange sincère, et c'est à cela que je travaille.
L'ancien député socialiste Christian Paul avec Anne Fauquemberg. Et si c'était le temps d'importer la campagne en ville, de la basilique de Saint-Denis jusqu'au cœur de Paris, des bergers urbains ce samedi 11 jours de transhumance pour montrer que l'agriculture urbaine n'est pas seulement synonyme de ruches ou de jardins sur les toits, un périple organisé par les élus et la métropole du Grand Paris. Il y a quelque temps encore, 80% de ce que consommaient les Parisiens était produit dans la petite couronne. C'est très loin d'être le cas désormais, mais plus que nourrir les Parisiens, l'agriculture urbaine, Anne-Laure Choin, est aussi une façon de décloisonner les rapports et les espaces.
Guillaume Leterrier fait partie de ces éleveurs qu'on dit non issus du monde agricole. Depuis plusieurs années, il s'occupe de moutons dans le parc départemental de la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, au sein d'une coopérative et grâce à l'association Clinamen. Aujourd'hui, avec d'autres bergers de Marseille, Lyon ou Bruxelles, il partira avec son troupeau montrer que l'élevage dans la ville, c'est une filière d'excellence.
Ici, on est à la Courneuve, en gros, c'est zone Natura 2000. Donc, du coup, nous, on se retrouve quasiment dans des zones qui sont sur des biodiversités assez intéressantes, des produits phytosanitaires qui ont été abandonnés parfois depuis 15 ans. Et donc, du coup, on est espèce de, comme ça, de havre de paix dans la ville qu'on peut mettre en place. Genre, nous, des moutons 100% à l'herbe, sans grains, sans aucune molécule chimique. Ça nous permet de sortir une viande de très bonne qualité, très appréciée des chefs étoilés.
Mais le gros écueil des bergers urbains, c'est le manque de structure.
La problématique qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que la ville n'a pas encore intégré des bâtiments agricoles. Et donc du coup, ça pose pour nous un petit souci, parce qu'on reste toujours sur des petites micro-productions qui ne nous permettent pas d'avoir une centaine ou 100 et 300 animaux pour pouvoir générer un salaire et vivre de ça. Donc du coup, on est obligé d'associer plusieurs services ou tout simplement rendre la ville d'un seul coup plus supportable que ce qu'elle est et permettre aux gens de réfléchir aux problématiques environnementales qu'ils vont rencontrer.
Une expérience qui dure depuis plusieurs années déjà, mais qui permet à Guillaume et à ses collègues de gagner leur vie depuis 3 ans seulement. Trouver les moyens de la pérennité de l'élevage urbain, c'est tout l'enjeu.
Cette information qui vient de nous parvenir avant de refermer cette édition, un navire humanitaire, on en parlait dans le journal, l'Alex, avec 41 migrants à bord, vient tout juste d'accoster dans le port de l'île italienne de Lampedusa, après le Sea Watch la semaine dernière. D'importantes forces de police attendaient l'Alex, affrétées par le collectif italien de gauche et d'extrême gauche Méditerranéa. Ce sont les images de la télévision italienne qui nous apprennent. Donc cet accostage tout à fait récent. Quelques mots de la météo de demain dimanche, temps toujours instable du massif central vers le centre-est. 23 départements ont été mis en vigilance orange aux orages violents. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau à la technique, Nicolas Delmas.